Vous êtes avec Radio SBS en français.
Madame Veil, bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre carrière.
Oui, c'est une carrière qui a commencé de façon très classique, comme magistrat, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion beaucoup de m'occuper de prison, puisque pendant 7 années, j'étais magistrat à l'administration pénitentiaire, et ensuite très spécialisée dans le droit de la famille, puisque j'ai beaucoup participé aux différentes réformes du code civil concernant le droit de la famille. Et puis tout d'un coup, je suis entrée dans la politique sans aucune préparation, et je suis devenue ministre lorsque Valéry Giscard d'Estaing est devenu président de la République. Il souhaitait avoir des femmes dans son gouvernement. J'ai été ministre de la Santé et de la Sécurité sociale pendant 5 ans. Et en 1979, j'ai quitté le gouvernement pour me présenter au Parlement européen. Je suis devenue président du Parlement européen. Et depuis 10 ans, je travaille pour l'Europe. Je suis complètement engagée dans les affaires européennes.
Mais il y a quand même dans votre parcours un éventail très très large de choses. On voit l'audiovisuel, on voit l'électronucléaire, on voit différentes options qui sont politiques mais aussi sociales et artistiques.
Oui, je dirais sociales surtout, parce que comme magistrat, j'ai parlé de l'administration pénitentiaire, j'ai parlé du droit de la famille, j'ai été très orientée sur les problèmes sociaux au sens large du terme qui m'ont toujours beaucoup intéressé, et c'était des activités professionnelles mais qui rejoignaient des engagements très profonds pour l'amélioration du bien-être quotidien des gens et pour les situations sociales des plus défavorisés, de ceux qui sont le plus vulnérables. On parle beaucoup des exclus en France, des marginaux, et je pense que qu'il appartient au pouvoir public et à tous ceux qui ont des responsabilités de prendre en compte ces situations particulières pour faire en sorte que ces marginaux soient réintégrés, réinsérés dans la société. C'est souvent le cas pour les délinquants qui n'ont pas eu de chance au départ. Il suffit de regarder quel a été leur curriculum. Très souvent, ils sont nés dans des milieux très défavorisés. Ils n'ont pas eu la possibilité d'une éducation, d'une formation. C'est ce qui les a menés, ou en tout cas favorisés, leur délinquance. Et pour ce qui concerne le droit de la famille, là aussi, c'est une activité profondément sociale. D'égalité des droits de la femme lorsqu'il s'est agi du statut des conjoints, égalité de la femme aussi lorsqu'il s'agit de définir l'autorité parentale, l'autorité des parents vis-à-vis des enfants, puisque jusqu'aux ces grandes réformes des années 60, c'est le père seul qui était chef de famille et qui exerçait tous les droits, théoriquement tout au moins, sur les enfants. Donc je crois que c'est un peu un combat toujours contre toutes les discriminations et les exclusions. Vous parlez de l'audiovisuel et de l'environnement. Alors l'audiovisuel, je dirais que je l'ai vu peut-être sans doute au départ d'un point de vue assez technique, qu'il s'agisse du conseil d'administration de l'ORTF ou qu'il s'agisse de cette année européenne du cinéma et de la télévision. Mais derrière l'aspect technique, il y a bien sûr l'engagement culturel. Il y a un engagement culturel qui est aussi de vouloir que ces moyens extraordinaires de communication qui est aujourd'hui la télévision, même le cinéma, permettent justement ce désenclavement, cet accès à la culture et à la formation qui est souhaitable pour tous. C'est aujourd'hui le plus grand moyen pour permettre une plus grande justice sociale et pour permettre à tous d'avoir une place dans la société, d'affirmer leur personnalité et leur capacité pour réussir dans la vie, ou sinon pour réussir au sens professionnel, mais déjà au sens de leur chance, de ce qu'ils souhaitent pour eux dans la vie.
Mais alors, ici, la télévision doit se faire l'instrument d'un nouveau savoir et aussi d'une nouvelle une nouvelle formation pour la vie. Il faudrait que le contenu de la télévision change quand même assez radicalement.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est là où le fond des émissions, ce qu'elles transmettent, rejoint le statut. Car il est certain que si on n'a que des chaînes purement commerciales animées uniquement par le souci lucratif, sans qu'elles aient de cahier des charges, sans qu'elles aient à se préoccuper de cet aspect culturel, il n'y a pas ces possibilités qui sont données pour tous d'y trouver un enrichissement. Et donc, je crois que c'est un peu l'effort que nous avons fait au cours de l'année européenne du cinéma et de la télévision, c'est de marquer la place que doivent avoir les chaînes publiques et également un certain nombre de règles déontologiques à respecter pour les chaînes commerciales, qu'elles ne soient pas purement livrées à l'aspect mercantile. Et quand je parle d'ailleurs d'exclusion, de discrimination, lorsque nous avons discuté de ces problèmes sur le plan européen, ce n'est pas seulement une question de transmission d'un savoir et d'une culture vis-à-vis des individus, des particuliers, les femmes et les hommes. C'est aussi de prendre en compte les préoccupations de cultures minoritaires qui craignent d'être écrasées par la culture dominante. Je pense notamment à la culture anglo-saxonne. Alors bien sûr, comme Français, nous sommes toujours très, très préoccupés de défendre la langue française, la culture que cette langue française véhicule, mais il y a en Europe des langues qui sont encore beaucoup plus minoritaires et qui craignent, je pense, aux néerlandais, aux danois. Et je crois que nous devons prendre en compte que cette diversité européenne et pouvoir répondre aux soucis de tous les femmes et les hommes qui regardent la télévision, de se reconnaître dans les images qu'ils regardent et de ne plus avoir des images totalement banalisées par des séries qui sont les mêmes dans le monde entier.
D'ailleurs, il y a une initiative très récente pour essayer d'enrayer le raz-de-marée noir, paraît-il, des mauvaises émissions qui étaient d'importation, n'est-ce pas ?
Oui, ça n'a pas été une initiative qui a eu beaucoup de succès sur le plan européen. C'est-à-dire que les Français ont effectivement, nous avons une législation assez rigoureuse qui impose à toutes les chaînes, tant publiques que privées, de respecter un quota d'œuvres francophones. Et même française, mais nous aurions voulu qu'en Europe, d'une façon générale, les Européens soient soucieux de préserver leur culture européenne, mais il n'y a pas pu y avoir d'accord entre les 12 pays de la communauté.
Justement, nous allons passer à l'Europe maintenant. Nous avons en Australien, en tant que francophone, deux images qui nous parviennent. Il y a l'image, d'une part, d'une Europe qui nous est donnée par les médias européens, c'est-à-dire une Europe forte, souple, ouverte, performante. Puis nous avons la crainte, la hantise des non-européens, enfin des pays qui ne font pas partie de la communauté, qui représente 1992 comme le début de la forteresse protectionniste, une Europe unie donc dangereuse pour les marchands qui ne font pas partie du groupe. Quelle est votre opinion ?
Oui, on connaît bien ce débat et nous avons très souvent discuté au Parlement européen de savoir quelles étaient les perspectives européennes et comment l'Europe devait se construire, dans quel sens elle devait aller. Et je crois que pour nous, il n'y a pas de doute, l'Europe est avant tout une Europe ouverte, parce que tout le passé des dernières décennies démontre que l'Europe elle-même a avantage à être ouverte. C'est elle qui est très fortement exportatrice aujourd'hui et qui est très dominante dans les échanges extérieurs, et ces échanges extérieurs l'enrichissent. Elle a besoin d'importer. Nous manquons de beaucoup de matières premières et pour pouvoir importer, il nous faut aussi exporter. Nous avons tout à fait besoin de maintenir cet équilibre entre les exportations et importations et maintenir un flux important d'échanges extérieurs, et même non seulement le maintenir, mais le développer. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est une source de richesse que ces échanges extérieurs, dans les deux sens. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être complètement démobilisés et en danger du fait de certaines exportations, je pense notamment aux exportations japonaises. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les échanges entre la communauté européenne et le Japon, on voit que les Japonais exportent dans certains secteurs de très importantes productions, et notamment dans l'électronique, mais dans beaucoup de biens d'équipement. Et l'Europe a beaucoup de mal à exporter ses produits. Nous avons donc des échanges extérieurs très déficitaires. Ce que nous souhaitons, c'est que les échanges extérieurs, importation et exportation, soient équilibrés. Et que tout au moins dans les règles et tout au moins dans la pratique, il y ait réciprocité. Et donc c'est sur la base de la réciprocité que nous voulons établir nos relations avec, avec les pays tiers. Naturellement, ne pas du tout fermer nos frontières, au contraire, les ouvrir toujours davantage. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait à travers le GATT, puisque de plus en plus, tous les tarifs douaniers sont abaissés, et ils disparaissent même progressivement. Mais en même temps, nous ne voulons pas qu'ils s'élèvent des barrières qui soient des barrières non tarifaires, mais qui soient des pratiques tout à fait protectionniste, comme il faut bien le dire, certains pays le font. J'ai cité le Japon, je crois que c'est tout à fait clair.
Oui, à vrai dire, il y a une certaine mauvaise volonté de la part de certains pays qui utilisent le protectionnisme en puissance comme une sorte d'excuse.
Oui, oui, si vous voulez, je crois que quand on parle du Japon, ce sont à la fois des habitudes culturelles, de consommation, un nationalisme qui fait que la population japonaise choisit le produit japonais. Il y a aussi une organisation, des structures de production, des structures commerciales qui font que c'est très difficile de pénétrer le marché. Et donc, nous ne pouvons pas accepter, en ce qui concerne les voitures, par exemple, aussi, je parlais de l'électronique, mais aussi les voitures, d'être complètement submergés par des industries japonaises qui tuent les industries européennes si nous n'avons pas, nous, la chance d'exporter un certain nombre de nos produits dans des conditions équivalentes.
Eh bien, nous allons passer maintenant aux derniers résultats des élections européennes. Les résultats des élections européennes de juin ont été décevants pour les partis du centre qui étaient pourtant les plus pro-européens. Alors, à votre avis, que s'est-il passé?
Oui, je crois qu'en fait, c'était des élections pour le Parlement européen. Le Parlement européen, pour l'instant, n'a pas beaucoup de pouvoir, pas beaucoup de pouvoir législatif. C'est surtout le Conseil des ministres qui prend les décisions en dernier sort. Nous avons simplement une faculté d'amendement avec des conditions très limitées et difficiles à obtenir. Et par ailleurs, il n'y a pas de gouvernement responsable devant le Parlement européen, puisque la Commission de Bruxelles, qui sert un peu de gouvernement, est nommée par les gouvernements et non pas désignée par le Parlement. Son président n'est pas choisi par le Parlement. Et que donc, on ne voit pas très bien, quelquefois, à quoi sert ce Parlement. Il a trop peu de pouvoir pour qu'on prenne conscience de son rôle. Donc, en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays de la communauté, le vote s'est plutôt fait pour comme un test de politique intérieure. Et nous avons beaucoup parlé de l'Europe, la liste du centre, donc nous n'avons pas su mobiliser suffisamment en parlant, en axant notre campagne sur l'Europe, qui reste encore quelque chose de très abstrait pour beaucoup de Français.
Oui, l'impression est précisément que les politiques sont en avance sur les populations et qu'il va falloir une campagne publicitaire d'une part, mais surtout une campagne d'éducation et de prise de conscience pour que les nationalités européennes se pensent européennes.
Oui, je crois aussi que beaucoup de citoyens en Europe ont le sentiment que l'Europe est déjà faite, parce qu'on circule très facilement, parce qu'en fait, les produits, on trouve les mêmes produits dans tous les pays, il y a une harmonisation des législations qui s'est faite progressivement et qui est déjà appliquée dans bien des domaines. Et donc les gens ne voient plus très bien ce qu'ils attendent de l'Europe. Et nous avons voulu exprimer l'idée que l'Europe n'était pas seulement une Europe économique et sociale, qu'elle devait être aussi une Europe des citoyens et progresser vers un véritable gouvernement de l'Europe avec des orientations politiques permettant aux différentes nations européennes de s'exprimer d'une seule voix dans les grands événements internationaux. Et ça reste quelque chose de très, très abstrait pour les gens et peut-être nous étions en avance.
Mais malgré tout, il semble que le Parlement et que les différentes structures européennes prennent du terrain, avancent quand même.
Oui, depuis 3 ans, depuis la signature de l'acte unique, l'Europe a beaucoup progressé. On a fixé cette date du 1er janvier 1993 pour la réalisation d'une union économique, d'un véritable marché intérieur, donc d'un seul marché européen. C'est ce qui inquiète quelquefois les pays tiers. Et en même temps, on commence à parler maintenant d'une union monétaire et d'une Europe sociale. Pour ma part, et c'était le programme des partis du centre, je pense que cette union doit avoir des orientations politiques. Elle ne peut pas être laissée simplement dans les mains des fonctionnaires, et que c'est la raison pour laquelle il est tout à fait souhaitable qu'un gouvernement de l'Europe puisse s'affirmer et donner les impulsions politiques nécessaires à cette nouvelle union économique et monétaire.
Votre... communauté, vos conversations. SBS French.